Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
L'adaptation pour le cinéma du film d'animation La Belle et la Bête arrive mercredi en salle. Dans un instant, les confidences de Belle, alias Emma Watson et Stéphane Boutsock, vous offrira au 3210 des bandes originales et des places pour aller découvrir le film. Parmi les sorties musicales de la fin de semaine, un album collégial qui a pour thème la mer Méditerranée. On découvrira des extraits de ce projet séduisant, piloté par Julie Zenati. Steven Bellery l'a rencontré. Un nouveau personnage apparaît au rayon bande dessinée, le Blond, ce beau gosse exaspérant créé par Gad Elmaleh sur scène. L'humoriste nous parlera de son Blond avec Monique Younes, bien entendu. Et puis à la télévision ce soir, un nouvel épisode de la série Capitaine Marlowe avec Pierre Arditi. Sur France 3 à 21h, ce sera l'un des choix télévisés d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bonjour.
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 There goes the baker with his tray like always. The same old bread and rolls to sound. Every morning just the same.
Vous aurez sans doute reconnu la chanson qui ouvre La Belle et la Bête de Disney. Après le film d'animation en 1991, c'est la version en chair et en os qui sort mercredi au cinéma. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour.
Une version on ne peut plus fidèle au dessin animé d'origine.
Ah oui, presque du plan pour plan par moment et surtout une véritable comédie musicale avec ses morceaux de bravoure et d'émotion. L'histoire, elle, évidemment, n'a pas changé. Une jeune fille va prendre la place de son père, retenu prisonnier dans un mystérieux château dont le maître est la Bête, ancien prince transformé par un sort. Peu à peu, ces deux-là vont apprendre à se connaître. Qui sait ? À s'aimer, l'amour étant la seule condition pour que le monstre redevienne un homme.
Et le rôle de la Belle est tenu par Emma Watson, dont on se souvient dans Harry Potter.
Et oui, c'est elle qui jouait Hermione, l'amie fidèle du petit sorcier. À 26 ans, aujourd'hui, la jolie Britannique donne ici libre cours à sa passion pour le jeu, d'accord, mais aussi pour le chant.
Chanter était un pari pour moi car je me sentais très vulnérable. On ne peut pas se cacher, il faut y aller. J'ai toujours aimé ça, mais soudain vous vous retrouvez sur un immense plateau, il faut aussi danser. Pour ces scènes-là, entre Belle et la Bête, nous avons subi un entraînement commando. Et je suis fière d'avoir accompli quelque chose qui m'a donné confiance en moi. J'ai l'impression d'avoir grandi en faisant partie de cette aventure.
This crumbling, dusty attic, where an artist loved his wife.
Et puisque cette Belle et la Bête est clairement une comédie musicale, eh bien Disney a confié au maître du genre le soin de composer 3 nouvelles chansons pour le film, après celle de 91 qui lui avait valu un Oscar tout de même. Ce maestro, c'est Alan Menken, créateur des mélodies de La Petite Sirène, d'Aladin, du Bossu de Notre-Dame ou encore de Pocahontas. Il explique au micro de Steven Bellery la genèse de ces 3 titres inédits.
Well, the first one... Pour la première, nous sommes partis du fait que Maurice, le père, est un inventeur qui crée notamment des boîtes à musique. Ça a donné une chanson qui s'appelle « How a moment could last forever » et qui nous renvoie à l'enfance de Belle à Montmartre. Et je voulais que ça sonne très musique de rue. Le second morceau s'appelle Days in the Sun. C'est une berceuse. Tous les objets du château, mais aussi Belle et la Bête, vont se coucher pour la nuit et chantent ce qu'était leur vie avant le sortilège. Et je voulais que ça ressemble à une berceuse toute simple. La troisième chanson est pour la Bête. Il laisse Belle s'en aller et la regarde partir du haut des tours du château et disant que désormais, il sait ce que veut dire aimer, mais qu'il le sacrifie par amour pour elle.
Now I know she'll never leave me, even as she
Les mélodies d'Alan Menken enrobent vraiment le film comme un écrin, porté par des décors somptueux, des effets spéciaux à la fois impressionnants mais aussi poétiques. On y retrouve en fait tout l'univers du conte dont l'origine remonte au 2e siècle. Et quitte à parler chansons, eh bien Alan Menken, toujours au micro de Steven, nous offre un vrai cadeau, la chanson thème de La Belle et la Bête qu'il interprète au piano.
Vas-y Alan.
As old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly.
La Belle et la Bête, donc, de Bill Condon, sort au jeu.
C'est l'auteur
demain.
Qu'on entend interpréter sa chanson lui-même
et
au piano.
Le petit Steven,
pour Steven,
ses captations magiques.
J'adore Steven.
Ça sort donc demain au cinéma.
J'adore Steven. Oui,
carton annoncé, le livre de la jungle, Steven. Adapté lui aussi par Disney du dessin animé, avait, on le rappelle, séduit 3 800 000 spectateurs l'an dernier.
Alors, puisque vous parlez chiffres, Stéphane, celui du démarrage de La Belle et la Bête aux États-Unis est totalement hallucinant.
170 millions de dollars en 3 jours seulement, c'est le 7e meilleur démarrage de toute l'histoire du cinéma. De quoi conforter Disney dans sa politique d'adapter en live action, comme on dit, donc avec de vrais acteurs, ses grands classiques animés. Emma Watson, elle rêve même d'explorer un peu plus l'univers de son personnage.
Précisément avec une histoire comme La Belle et la Bête, il y a tellement de choses à creuser. C'est riche, profond. Je pense que ça pourrait durer éternellement avant qu'on puisse vraiment faire le tour et répondre à toutes les questions. Moi, par exemple, j'aimerais voir un film uniquement consacré à la jeunesse de la bête, un autre qui parlerait de Belle et de son père en vacances, bref, des millions de choses. Non, je ne réclame pas de suite, je dis simplement qu'il y a là une matière très riche.
Côté Broadway, hein.
Tout cela est d'un classicisme absolu et de très bonne allure.
Comme la comédie musicale.
Mais oui, d'ailleurs. Moi, j'ai eu la chance de voir le film et ils ont réussi à garder la magie et la tendresse du dessin animé sans faire un film pour adultes ni un film pour enfants. Ils ont réussi à trouver un juste milieu.
Mais est-ce que la bête est aussi belle que dans le dessin animé?
Oui, elle est bien réussie.
Ah oui, c'est très, très réussi.
Belle bête.
Belle bête, monsieur.
Un peu poilu. Belle bestiole. Alors, nous vous offrons des places de cinéma pour aller voir La Belle bestiole et découvrir ainsi des bandes originales dont on vient d'entendre quelques extraits pour gagner le. Il faut répondre à la question que vous pose Stéphane.
Qui joue le rôle de Belle dans le film? Emma Stone ou Emma Watson?
Ah, c'est finaux, ça. Ah, oui. Réponse au 32-10. Nous allons passer maintenant à nos audiences télévisées d'hier soir avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Boss, je suis tout oui.
Eh bien écoutez, TF1 espérait plus de 10 millions de téléspectateurs, on peut dire qu'on y est puisque 9 800 000 personnes étaient sur la une hier, quasiment un téléspectateur sur deux, 48% du public sur la une, hein, on ne va pas mégoter, avec effectivement une pointe à plus de 10 millions, donc c'est bien. Bah, du coup, ça c'est dit pour la cuisine interne. À propos de cuisine, c'est justement Cauchemar en cuisine sur la 6 qui s'en sort le mieux après, mais 2 200 000 téléspectateurs, c'est évidemment moins que d'habitude et 9% du public sur la 6. Les autres, il vaut mieux ne pas en parler. C'est encore La Proie sur la 3 avec un tout petit peu moins de 2 millions qui s'en sort le mieux ensuite. Et côté TNT, eh bien c'est, attendez, j'ajuste mes yeux, bah c'est logiquement Rush Hour 3.
Avec Jackie Chan.
Qui, voilà, presque 900 000.
Jackie Chan.
Voilà, presque 900 000 téléspectateurs sur C8. C'est le plus fort score de la TNT hier.
J'aime beaucoup quand vous nous parlez du cinéma international, Isabelle.
Et du football.
Et du football, bien entendu aussi.
Oui, réunis.
On se réunit. On se retrouve dans quelques instants. On sera encore dans un univers musical, bien entendu. Passez une excellente journée à l'écoute d'RTL. Il est 9h09.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
allons maintenant balayer l'actualité musicale de la semaine avec vous, Steven Bellery. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et on commence avec la sortie vendredi de Méditerranéenne, un album collégial.
Oui, un projet imaginé et piloté par Julie Zenati et contenant 16 reprises, 16 chansons pas forcément connues. Julie Zenati a convié de nombreux interprètes originaires ou vivant dans un pays bordant la Méditerranée. Le résultat est séduisant et forme une collection éclectique et cohérente. Exemple avec ce titre de Patrick Bruel, revisité par Julie Zenati et Chimène Badi.
Tes souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal à part, elle comme ta oui. Les premiers mots d'amour sur des chansons velours, Habibi, Habibi. Tes souvenirs se voilent, tu les aimais ces fruits, les noyaux d'abricot pour toi, c'était débile. Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes au plein jeu d'amamètes.
Au Café des Délices, écrit par Félix Gray en 1999, autre extrait de Méditerranéenne, Julie Zenati et Claudio Capeo font revivre Sparing Partner de Paolo Conte.
Stava lì nel suo sorriso a guardar passare il tram, vecchia pista d'elefanti stessa sopra al macadam.
Julie Zenati a pensé Méditerranéenne comme un portrait musical de la Méditerranée.
Alors déjà, c'est pas un album concept. C'est un album de partage, de rencontres et de curiosité. C'est-à-dire qu'au départ, tout est parti de l'envie d'explorer un peu la musique des deux bords de la Méditerranée et voir comment un bord répondait à l'autre. Et c'est comme ça que j'ai commencé le voyage. Et de suite, du coup, je me suis dit, c'est un album que j'ai envie de partager. Et mon premier visage qui m'est apparu est celui de Chimène Badi.
Frêle et faible fut la source.
C'était carrément impossible de dire non parce qu'il y avait aussi l'engouement que Julie avait autour de cette idée. Et c'est aussi ça qui donnait envie d'aller avec elle à l'aventure parce que on sent que c'est quelque chose qui l'habite et qu'elle avait vraiment envie de faire et qui la touche particulièrement. Donc à partir de ce moment-là, c'est quasiment impossible de dire non. C'est vache, quoi.
Titre Forte d'espérer, une adaptation d'une chanson intitulée Amal, sortie en 2012 et évoquant les printemps arabes. De la même manière, plusieurs chansons ont été traduites en français pour le projet.
Alors, outre Chimène Badi, qui Julie Zenati a-t-elle invité, Steven ?
Alors, beaucoup d'artistes inconnus chez nous, mais aussi Sofia Essaidi, Elisa Tovati et Trois Garçons, on l'a entendu, Claudio Capeo, Slimane et Enrico Macias. L'envie n'était pas de pasticher les chansons originales, mais bien de faire un disque actuel, Julie Zenati.
L'idée, c'était de faire un pont entre une musique un peu pop et avec une couleur un peu plus méditerranéenne, ou en tout cas avec des instruments plus traditionnels. Et donc, il y a aussi des musiciens qui se sont rencontrés, qui ont appris à travailler ensemble. Quand un oudiste et un batteur travaillent ensemble, je peux vous dire qu'il y a quand même un petit moment, surtout quand le batteur fait plutôt de la pop et pas forcément sur des rythmes arabo-andalous ou tout ça. Il y a des moments assez magiques parce qu'il y a un endroit où ils se retrouvent et c'est le moment où ils s'écoutent. Et je pense qu'en fait, c'est ça, cet album. C'est qu'à un moment, on n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais par contre, au moment où on s'écoute, il y a quand même un endroit où tout s'apaise.
Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues.
Adieu mon pays, c'est l'une des chansons de l'album Méditerranéenne qui sort vendredi prochain. Deux rendez-vous sur l'antenne d'RTL. Julie Zenati chantera en direct tout à l'heure chez Stéphane Bern et elle sera avec Chimène Badi en live ce samedi 15h dans le grand studio RTL.
Ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu.
Dans l'actualité également, Steven, le groupe The Cranberries est bientôt de retour.
Ouais, les Irlandais fêteront l'an prochain leur 25 ans de carrière à cette occasion. Ils repartent sur les routes, ils donneront 10 concerts en France avec notamment 3 dates à l'Olympia à Paris les 4, 5 et 13 mai prochains. Une série de spectacles accompagnée par la sortie de Something Else le 28 avril. C'est une compilation de leurs plus grands succès, un best-of inédit puisqu'ils ont tout réenregistré en acoustique avec l'Irish Chamber Orchestra. Le premier extrait vient d'être dévoilé, il s'agit de leur tout premier tube Linger 93. Voici la version 2017.
We'll be right back.
sortie du best-of acoustique des Cranberries le 28 avril.
Ce journal musical était signé Steven Bellery. Monique Younes,
oui.
Gad Elmaleh est donc sur scène aux États-Unis, mais c'est en France qu'il publie sa première bande dessinée aux éditions Michel Lafon. L'album a pour titre Le Blond. Pourquoi ?
Ben enfin, c'est une référence au personnage qu'il a créé sur scène il y a plus de 10 ans, souvenez-vous. Le blond qui commence ses phrases comme ça.
Eh dis donc, pichounou, louloute, hop hop hop. Ah dis donc, il est où ton sac ?
Le blond est cet homme parfait qui fait tout bien. La chance n'arrête pas de lui sourire. Elle en a des crampes, la vie, tellement elle lui sourit au blond.
T'as vu le blond quand il mange un sandwich ? Putain, la mayonnaise, elle sort pas. Lui, les tomates, elles restent parallèles, il n'y a aucun problème. Hein. Si toi, tu mords dedans, t'as toujours une tomate, elle veut sortir la tête du sandwich pour voir ce qui se passe, genre... Hop, qui vais-je, ça va ?
Je l'ai appelé le blond, juste par opposition à moi. Impeccable, propre sur lui, très calme, studieux et en même temps très doué en sport.
Il avait des muscles de blond ici qui faisaient pac, 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 pac.
Donc ce mec-là, je l'ai toujours trouvé un peu too much, j'étais intimidé. Plus tard, j'ai grandi, ce même mec, il invitait les filles à danser le slow. Elle disait oui du premier coup, moi je galérais un peu plus.
Il m'énerve ! Il était là avec ses mains de blond, la main de blond avec des avant-bras, avec des poils brochingués.
Je crois même que c'est grâce au blond que j'ai développé l'humour. Je me suis dit que c'était une arme qui m'appartiendrait et qui serait ma manière à moi de me faire aimer, de me faire regarder.
Mais le blond, qu'il soit sur scène ou aujourd'hui en bande dessinée, n'est pas uniquement, pour Gad Elmaleh, un double autobiographique. Écoutez.
J'ai envie de dire à tous les gamins, à tous les gens qui pensent qu'il y a un autre... Il y a une autre qui les intimide. Vous n'êtes pas les seuls, quoi. Je suis passé par là, on est plein comme ça. Puis on est solidaires, quoi. Il y a 90% de vrai. Je suis plutôt pudique de nature et j'étais assez complexé quand j'étais gamin. Et je mettais un bonnet, non pas parce qu'il y avait du soleil, parce que je n'aimais pas avoir les cheveux bouclés. Je me faisais des défrisages avec un produit qui me brûlait le crâne. Je me suis quasiment jamais mis, enfin très tard, ou alors pour des occasions très précises, en maillot de bain.
Et donc à la piscine, vous étiez...
J'étais toujours en t-shirt. J'avais peur qu'on voie mes pieds, je les mettais dans le sable à la plage. Je me disais, je peux pas me mettre en maillot parce que j'ai pas de muscles. Et ça m'a poursuivi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et maintenant ?
Maintenant, j'éteins la lumière.
Maintenant, j'ai une piscine privée.
Maintenant, j'ai une piscine à la maison, j'éteins la lumière.
Comment est construit cet album ? Il y a une histoire ?
Ben c'est comme un recueil de nouvelles, tenez, ce qui correspond à la physionomie des sketchs que Gad Elmaleh fait sur scène. D'ailleurs, la plupart de ces petites histoires sont directement inspirées de ces sketchs. On retrouve donc le blond au ski, au supermarché, chez le médecin, en avion, au lit, et toujours aussi à l'aise, content de lui, quoi qu'il fasse ou qu'il se trouve. Mais cet imbécile heureux est aussi une caricature du bobo, comme Gad en croise parfois dans la vraie vie.
J'étais dans un parc avec mon petit il y a quelques jours, il y a 3 ans, et j'ai été acheter une sucette. Et comme il jouait avec un autre gamin, j'ai acheté une autre sucette. Et donc je tends une sucette à mon fils, et je donne une sucette à l'autre gamin. Et la mère, elle court. Non ! Je dis, ah, je suis désolé, il mange pas de bonbons. Elle me dit, non, il sait pas ce que c'est. On lui en a jamais parlé. Je dis, mais comment ça, vous en avez jamais parlé ? On n'a jamais parlé des bonbons, il n'y a pas de bonbons à la maison, et on préfère pas qu'il sache ce que c'est. Je dis, mais vous, un jour... Ado, il va tuer des gens avec des sucettes. Il va faire une révolution, c'est pas possible. En rigolant, je lui dis, vous n'avez pas de télé. Elle m'a dit, comment vous savez ? Et j'ai continué, vous avez des jouets en bois. Et voilà, et c'était le portrait de la caricature des gens qui pensent que c'est comme ça qu'il faut faire.
Alors, le blond en bande dessinée, ça sent la série, non ? Je me trompe ?
Alors, pour l'instant, 3 albums sont programmés. Gad Elmaleh travaille avec le scénariste Bastien Pasquier et le dessinateur Spoon. Sa tournée de stand-up aux États-Unis lui donnera certainement beaucoup d'idées pour nourrir les aventures du blond. D'ailleurs, Gad ne regrette pas un instant d'avoir entrepris ce challenge.
Je suis très confortable dans ma position de comique et j'ai envie de grandir et de devenir le meilleur là-dedans. Le projet d'ailleurs des États-Unis, on pourrait le résumer à un challenge, oui, le rêve américain, ok, mais les choses sont plus intimes que ça. C'est se surpasser, gagner les rires, les gagner chacun, surtout quand je fais les clubs, ce que j'appelle les caves. Et quand tu fais une cave à Dallas, il y a des Américains 100%, il faut juste être drôle. Quand ça rigole pas, c'est très violent. Il y a ce journaliste du New York Times qui m'avait dit, on dirait un mec qui a gagné Roland Garros et qui dit à partir de demain, je recommence avec la main gauche. Tu verras que tu apprendras des choses sur ta main droite. C'est de la recherche, c'est déconstruire tout ce que je pensais savoir sur la comédie. En gros, quand je vais revenir faire mon show en France, je pense que j'aurai appris tellement de choses que je serai encore plus fort. Il faut que le prochain spectacle que je ferai en France soit une surprise, il faut que ce soit un nouveau truc, il faut que ce soit quelque chose qui étonne les gens. Et pas forcément qu'il leur plaise, j'espère que ça plaira, mais c'est pas le but.
Près d'un siècle après Tintin en Amérique, on aura peut-être droit à Gad Elmaleh aux USA. En attendant, si vous voulez le retrouver en France, un album de bande dessinée raconte ses vieux complexes. Le Blond est édité par Michel Lafon pour 10,95€.
10,95€. Merci beaucoup, Monique.
Michel Younes. Monique, ça me suffit aussi.
Ça vous va très bien, Monique. Dans quelques instants, on parle télévision. Ce sera évidemment avec Isabelle Morini-Fosk.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Voilà, il ne manque plus maintenant que de parler de notre soirée télévisée. On va commencer Isabelle Morini-Box par le...
J'ai l'habitude.
Michel Younes et
comme
Isabelle
Morini-Box.
Voilà. Quatre boules de cuir. Alors, on commence par le magazine Cache Investigation, consacré ce soir sur France 2 au silence de l'Église sur la pédophilie.
Oui, c'est Cache, le magazine de grandes enquêtes au long cours de la 2, des enquêtes coup de poing que l'on trouvera, selon qu'on aime ou pas, pugnace ou hargneuse, voire les deux. Ce soir, il s'agit... C'est juridiquement bétonné, hein. Ce soir, il s'agit de dénoncer le poids du silence dans l'Église, c'est-à-dire la non-dénonciation de prêtres pédophiles par les hiérarchies religieuses et leur mutation, notamment sur d'autres continents, Afrique, Amérique du Sud, où ils ont l'impunité, comme le montre un tableau projeté à la Géode, avec plus de 90 exfiltrations de prêtres sur d'autres continents. Mais le moment le plus spectaculaire de tout le document, c'est à la toute fin, il dure quelques minutes, c'est la rencontre entre Élise Lucet et le pape. La parole à Élise Lucet.
On s'est aperçu qu'il avait tenté de faire disculper un prêtre, le père Grassi, qui a finalement été condamné à 15 ans de prison pour pédophilie. Et le pape, donc, quand il était haut responsable de l'Église en Argentine, a tenté de le faire disculper en commandant lui-même une contre-enquête déposée sur le bureau des juges. Il espérait que le père Grassi ne soit pas condamné en appel. Ce qu'on a fait et qui n'a jamais été fait, c'est que moi, je suis allée interpeller le pape. Et comme on savait que c'était impossible de lui poser des questions, je me suis placée dans le carré des fidèles dans l'audience du mercredi. Et on a attendu pendant 3h30 et le pape est passé à 10 cm. Donc j'ai pu lui poser des questions sur l'affaire Grassi et il m'a répondu. Alors c'est très bref, hein, il répond non, pas du tout. On l'a senti vraiment interpellé. C'est pas qu'on a voulu, entre guillemets, faire un coup. C'est vraiment pas ça, Cache Investigation. Le but, c'était de voir à quel point aujourd'hui le pape François affiche des positions sur la condamnation de la pédophilie dans l'Église, mais comment par le passé, il a pu couvrir lui-même des faits de pédophilie dans l'Église.
Alors c'est effectivement bref, mais au simple nom de Grassi, le Grassier, on voit le pape s'arrêter, grimacer et nier avant de repartir.
Votre sainteté, dans le cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Non? Pourquoi avoir commandé une contre-enquête alors? Pas du tout?
Voilà, c'est une bonne enquête de Martin Boudot qui laisse parfois mal à l'aise parce que ceux qui témoignent courageusement, comme l'évêque Crépuy, qui est coupable de rien, eh ben, ont des airs justement de coupables. Et ça met parfois très très mal à l'aise. La suite à 20h55 ce soir sur la 2. Je pense qu'il n'y aura aucun représentant de l'Église sur le plateau ce soir.
On va regarder ça. Et si on préfère une fiction?
Ah, faut aller sur la 3 pour voir un épatant Capitaine Marlowe de José Dayan.
Bien, la Corinne
oui,
Massiero,
avec Corinne Massiero, hein. Comme d'habitude étonnante en fliquette, qui, comme Colombo, a l'art de paraître idiote sans l'être. Ben, chouïa trop, mais je l'aime vraiment beaucoup, avec son bonnet oreille de cocker qui lui donne des airs de dingo, à tous les sens du terme. Ce soir, elle enquête sur le meurtre d'Elsa, la nounou du fils d'un célèbre auteur de polar.
Vous ne frappez jamais?
Ça sert à rien, hein. De toute façon, je finis toujours par rentrer, alors.
Pour en revenir à Elsa,
ouais.
J'ai une hypothèse, si ça vous intéresse.
Oui, allez-y, hein. Faites pas votre timide.
Le meurtre a eu lieu pendant que tout le monde était dehors à la fête.
Mm-hmm.
Alors un voleur a pu en profiter, sans moi, il s'attendait pas à tomber sur Elsa. Alors il a paniqué, il a tiré...
C'est nul, hein, franchement. Vous pouvez trouver mieux. Ce serait possible de voir votre Luger de l'armée suisse.
Qui vous a dit que j'en avais un?
Un trou de balle.
Pardon?
Un trou de balle. La balle qu'a tué Elsa. À mon avis, je parierais bien qu'il a disparu de votre vitrine. Ah, il y a un truc chiant aussi, c'est qu'on n'a pas trouvé son téléphone portable à Elsa.
Bah, c'est normal, elle n'en avait pas.
Un jeune sans portable, c'est comme un actionnaire sans licenciement, ça peut pas survivre. Hein.
Je veux pas que mon fils soit confronté à ce type d'appareil. C'est très mauvais pour le cerveau, les ondes. Hein.
Moi, est-ce qu'une balle de revolver, hein?
Vous avez des enfants?
Pourquoi faire?
Eh ben, alors, je me passerai votre expertise sur le sujet.
Voilà, il y a beaucoup de dialogues savoureux. Et après, Restez sur la 3 pour suivre un inédit du divan de Marc-Olivier Fogiel qui reçoit justement ce soir Pierre Arditi, un Arditi boulimique, insomniaque et très amoureux de sa femme, ça tombe bien. C'est l'un des meilleurs divans qu'on ait eu, mais franchement, à 23h35, le démarrage, c'est si tard que c'est quasiment la première émission du mercredi matin sur France 3, puisque ça se termine vers 1h.
Il y a ce qu'on appelle la télévision de rattrapage.
Oui, la télévision de rattrapage. Mais pour les gens qui aiment bien, c'est quand même, honnêtement, il dure 1h26 le téléfilm, ça pourrait être un chouïa plus tôt. Et puis il y a aussi Les années de Chavannes sur C8, une émission de Chavannes, trois raisons de regarder.
Je suis curieux du divan de Marc-Olivier Fogiel avec Pierre Arditi.
C'est très très bien.
On se dit au revoir dans un instant et on vous distribue des places pour aller voir La Belle et la Bête et écouter la bande originale du film. N'est-ce pas Stéphane ?
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
This is the Paris of my childhood.
Mais qui chante Stéphane Botsock ?
Élémentaire ? Emma Watson.
Voilà,
pour la
si
petite
vous
anecdote,
nous avez...
elle chante Paris of My Childhood et elle est née à Paris, Emma Watson.
Oui, voilà, c'est une information à chaque phrase, moi je vais vous dire. Cette équipe de Laissez-vous tenter, c'est un régal. Vous avez donc gagné en nous appelant au 3210 des places de cinéma pour aller voir La Belle et la Bête et aussi des bandes originales. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je pense que cette musique magnifique peut nous permettre d'accueillir
La Bête.
Julien Courbet.
Je crois que j'ai fait une bêtise, car... Ah, j'ai payé 10 000 euros ma grand-mère de 98 ans pour déménager mon bureau à l'Assemblée. B, j'ai payé 20 000 euros ma fille de 8 ans pour faire un rapport sur le conflit israélo-palestinien. C, j'ai fait une avance sur salaire de 10 000 euros à mon fils qui était encore dans le ventre de sa mère. Quelle est votre réponse ?
ABC.
C'est la bonne réponse. Bravo, monsieur Calvi, vous avez gagné des millions. Je vous souhaite une bonne journée.
Vous m'avez l'air en forme. Faites-nous une belle émission.
Merci.
Vous écoutez avec plaisir.